voyez une chose qu'il faut mettre en considérance, qui est très importante, que en 1975, nous avions aucune femme formée dans n'importe quel domaine. Aucune institutrice, aucune infirmière, aucune administrative, aucune responsable politique, bien sûr. Alors, les femmes ne savaient rien, rien.
Dans aucune classe sociale, parce que les femmes sahraouis ne sont pas toutes du même milieu.
Vous voyez, dans la société traditionnelle, la femme sahraoui n'avait pas de problème. Mais c'est une société bédouine, où elle nécessitait pas d'efforts ou bien de placements politiques ou économiques, comme vous pouvez le voir dans une société citadine, etc. Alors, il y a eu le colonialisme espagnol. Il a tout fait différemment, même au niveau des mentalités. Dans la société sahraoui, nous avons eu jamais le problème d'égalité, par exemple.
Ce qui est bien différent des sociétés arabes, il faut le préciser.
Alors, la femme sahraoui était toujours respectée, était toujours présente, était toujours libre, hein, chez elle, avec les autres, avec son mari, avec les hommes. C'est une femme respectée. Le colonialisme espagnol, en commençant et surtout d'ouvrir des camps de travail dans les villes et surtout avec les mines de phosphate à Laayoune, les hommes ont commencé à travailler. Mais les femmes étaient tout à fait isolées. Parce que même avec le colonialisme, les hommes, soit comme mari ou bien comme père ou comme frère, n'avaient pas la confiance au colonialisme de laisser leur fille aller à l'école ou travailler, etc. Alors vous pouvez trouver 3, 4 à 5 femmes qui travaillaient, soit comme femmes de ménage, etc. Alors, pour vous trouver des femmes à l'université ou bien dans des postes politiques, etc., ça n'a pas arrivé. Alors, avec la révolution, on était obligé de commencer de zéro. Alors, dès les premières cellules de la lutte secrète ou bien clandestine, on a commencé la mobilisation politique, mais aussi les campagnes d'alphabétisation pour les femmes. Et ça a marché d'une façon parallèle. En 1975, les femmes se trouvaient face à la responsabilité. Bien sûr, la majorité des hommes, je peux dire tous les hommes, étaient obligés de quitter au champ du combat. Qui a resté au camp devant ses responsabilités d'organiser, de gérer les camps, de soigner les gens, de donner des cours et des leçons aux enfants, sont les femmes. Elles étaient obligées de le faire. Pas parce qu'elles ne pouvaient pas aller au champ du combat, ça est arrivé, parce que même elles étaient obligées de prendre le fusil pour se défendre devant les bombardements du napalm, les bombardements du phosphore, devant l'agression maroco-mauritanienne à l'époque, on était obligés de se défendre. Mais parce que tous les hommes étaient là au front des batailles, les femmes se trouvaient là au campement. Alors, c'est arrivé une distribution de travail tout à fait naturelle. Dans d'autres mouvements de libération, vous voyez, ce ne sont pas tous les hommes qui sont au combat. Il y a des hommes qui sont au combat, mais il y a des hommes qui sont dans la vie civile. Et vous pouvez trouver des femmes au champ du combat, mais pas tout à fait toutes les femmes qui sont présentes dans la vie civile. Chez nous, tout à fait le contraire. Dans les premières années, surtout, il y a eu tous les hommes qui étaient des combattants. Alors, ce qui fait que les femmes se sentaient responsables de prendre la responsabilité de se mettre si forte et solide devant ce défi. Maintenant, qu'on se rappelle entre nous comme femmes, qu'on discute, des fois on riait, parce que vous trouvez une qui dit « Oh là là, je me rappelle de la première journée où j'étais dans une classe face à face aux élèves, mais je ne savais même pas la différence entre le A et le B. » C'était vraiment une souffrance, mais c'était aussi un défi. Vous pouvez trouver une autre femme qui dise « Moi aussi, je me rappelle de la première journée où je me suis trouvée dans un dispensaire devant des gens bombardés avec du napalm et des phosphores, devant des enfants malades et je ne connaissais même pas comment prendre une injection, bien une seringue. » Hein, ces femmes-là, maintenant, sont des directrices d'école, sont des enseignantes, sont des infirmières, sont des aides-médecins. Et c'est une chose vraiment, vraiment importante. Alors, vous voyez, il y avait les obligations de la révolution, parce qu'il faut faire quelque chose, il faut travailler, vous n'avez pas d'autre choix. Il y a eu le défi, le grand défi de faire quelque chose, hein, devant cette guerre génocide qui a la mort, hein, qui veut exterminer ce peuple et cette nation. Alors, on a eu le sens de ce défi de faire quelque chose. Troisièmement, on était là. On était là, et femmes. Et femmes, il y avait les comités populaires, il y avait les dispensaires, il y avait les écoles, les jardins d'enfants, et en plus, il fallait les construire, hein, en tube. Alors, il fallait faire des campagnes pour construire des écoles pour nos enfants. Il fallait construire des jardins d'enfants pour eux. Il fallait construire des hôpitaux pour les soigner. Et bien sûr, on travaillait, hein, plein terre pour faire des briques, pour construire ces hôpitaux, ces petites maisons pour les enfants. Mais en même temps, on traçait les programmes, on fait pratiquer ces programmes. Et c'était une expérience, bien sûr, très douloureuse, parce que quand vous n'avez pas les capacités comme femme, hein, vous n'avez pas les capacités, mais vous avez le grand rêve aussi, hein, d'être là. Alors c'était dur, mais on est arrivé. Bien sûr, il y a, jusqu'à maintenant, nous avons pu faire beaucoup de choses. Cette génération aussi, ici, que je viens de parler d'elle, c'est une génération très importante qui a fait l'impossible. Maintenant, il y a eu des jeunes qui ont fait l'université, qui commencent à sortir d'une façon académique, sont bien instruites, etc. Mais aussi, il ne faut pas oublier cette génération qui, maintenant, exige en nouveau, hein, une formation solide.
Elles ont quel âge, ces femmes, Radija, pour qu'on se donne une idée?
Oui, comme ça, vous avez, il y a 34, 35, 36, jusqu'à 40 ans, des fois. Alors, pour moi, c'est la génération la plus importante, parce qu'il y a nos grands-mères. Nos mères, c'est une génération, elles ont participé. Malgré nos grands-mères, vous trouvez, il y a des vieilles femmes à l'âge de 60, 70 ans qui sont, par exemple, chefs de comité populaire dans une daïra. C'est très important. Elles ont vécu le colonialisme espagnol, mais aussi elles sont en train de vivre l'expérience avec la révolution. Malgré leurs souffrances, comme grande-mère, comme mère de famille, elles ont aussi participé à la révolution. Mais le douleur, ou bien la douleur qu'a senti cette génération, celle, hein, qui était obligée de gérer sans avoir les capacités, c'est très important. Alors maintenant, ils demandent, malgré l'âge aussi, et cette génération aussi, sont des épouses, sont des mères de famille, chacune parmi elles a 5, 6 enfants, des fois 7 enfants, et dans des conditions qui sont très difficiles. Les conditions dans un camp de réfugiés n'est pas facile. Et dans un coin aride, désertique, où vous ne pouvez pas trouver le moindre moyen de loisir, c'est pas facile. Mais malgré ça, elles nécessitent la formation. Elles sont courageuses à continuer. Elles rêvent d'avoir un avenir brillant, hein, pour avoir aussi la possibilité de continuer la construction de l'État sahraoui digne et libre, où la femme sera parmi les premiers rangs.
Une chose, Radija, justement, vous parlez de l'État sahraoui, mais dans les faits, au moment où tout ceci se construisait à l'intérieur des camps de réfugiés, qu'est-ce qui est dans votre tête? Est-ce que c'était l'idée de dire on profite de ce moment où on doit s'exiler et puis on accumule le plus de choses pour nous? Alors c'était un petit peu en attendant. Ou est-ce que c'est déjà, parce que ça me paraît, ça me donne un peu cette idée comme vous racontez, est-ce que c'est déjà quelque part construire le futur État? Parce qu'il y a tellement de structures qui paraissent déjà déterminées dans ce que vous racontez, qui se passe dans les camps.
Vous voyez, je peux dire que nous sommes en train de vivre comme réfugiés. Je ne voulais pas dire comme peuple, comme réfugiés, c'est important, une nouvelle expérience humanitaire. Une nouvelle expérience humanitaire que vous ne pouvez pas trouver dans d'autres rassemblements de réfugiés. Et ce que nous étions convaincus dès les premières années de le faire, c'est de ne pas rester un rassemblement de réfugiés, croiser les bras.
Qui attendent.
Oui, qui attend l'espoir ou bien l'indépendance ou bien la solution de son problème, mais aussi qui attend l'aide humanitaire qui vient jusqu'à entre ses mains. Non, nous étions convaincus qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut faire une action dynamique, qu'il faut travailler, et surtout avec la proclamation de la République le 27 février 1976, c'est-à-dire que nous avons pris un nouveau chemin, c'est continuer la libération nationale, mais aussi construire et poser les bases de l'État sahraoui. Et quand je dis les bases de l'État sahraoui, c'est construire les instances, soit au niveau économique, soit au niveau social, soit au niveau culturel. Et c'est vrai que c'est arrivé. Maintenant, nous n'avons pas de problème de gouvernement, nous n'avons pas de problème d'instance sociale ou économique ou politique. Vous pouvez dire que nous avons un État en exil. Une fois qu'on aura l'indépendance, on le posera d'une façon tout à fait automatique.
Opérationnelle. Demain, tout peut fonctionner.
Oui, c'est ça.
Alors, très concrètement, Radija, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de la vie de tous les jours, des femmes qui aujourd'hui vivent encore dans les camps de réfugiés, peut-être des exemples différents, à la fois de vie quotidienne, peut-être un exemple, qui montre à quel point la situation de la femme a évolué. Par exemple, dans la famille, comment se passent les répartitions, les relations entre les gens?
Oui, vous voyez, quand vous parlez de la famille, il faut mettre toujours en considérance que vous avez un mari absent, la plupart du temps. Ça, c'est un mari ou bien un père ou bien un frère. C'est très rare que vous trouviez un homme dont la famille soit qu'ils sont en permission. C'est pas qu'ils sont en permission ou bien que les jeunes rentrent pendant les vacances. Alors, ça devient un peu une société de femmes, si je peux le dire. Et dans ce contexte, vous pouvez imaginer les relations. Alors, ces femmes, comment je peux dire, bien donner un exemple d'une journée, sont des femmes qui travaillent dans des domaines différents. Dans un camp de réfugiés, par exemple, vous avez 5 comités populaires. Vous avez un comité de provisionnement, un comité de santé, un comité d'éducation, un comité de production et un comité d'affaires sociales. Les femmes sont distribuées dans ces comités. Ce sont des comités de travail de jour et chaque comité a son programme.
Donc, est chargé d'organiser. Le comité, ça veut dire qu'il y a quelques femmes qui sont responsables d'organiser telle ou telle chose.
Chaque comité a une présidente. Hein, et les présidents des comités font le conseil populaire qui préside la daïra. Mais dans ce conseil aussi, il y a la présidente de l'Union des femmes, la présidente des jeunes, la présidente ou bien le présentant, des fois ça arrive, des travailleurs et la présidente du secteur sanitaire et politique.
Mais ce n'est pas trop administratif, c'est des gens qui ont des tâches concrètes dans la vie de tous les jours.
De tous les jours, mais en même temps aussi, dans la daïra, vous trouvez des femmes institutrices ou professeurs ou infirmières ou gardes d'enfants dans les jardins. Alors, dès le matin, tout le monde commence à travailler. Donc, tout le monde commence à travailler. commence à travailler, il y a celles qui travaillent dans la production, soit dans les jardins, hein, dans les projets agricoles, soit de faire du travail des ateliers de couture ou bien de tissage, ou de faire les nattes, ou de faire de l'artisanat. Il y a les femmes de santé, soit pour... Alors, dès le début de la journée, tout le monde commence son travail. Celles qui travaillent dans les comités de production, par exemple, elles se distribuent pour travailler. Il y a celles qui travaillent dans les jardins, il y a celles qui travaillent dans les ateliers de tissage, ou bien les ateliers de couture, ou bien les ateliers d'artisanat. Il y a celles qui travaillent dans le jardin des enfants, par groupe aussi, celles qui vont amener les enfants de chez eux, et celles qui travaillent à la maison. Il y a celles qui travaillent le jardin d'enfants. Il y a celles qui travaillent dans le secteur sanitaire, hein, des groupes qui font le contrôle de la propriété de la daïra, ou bien voir les malades dans les dispensaires, ou bien les malades sur place, ou bien les vieillards qui sont chez eux, les visiter, voir leurs conditions, leur santé, etc. Et en plus, il y a les réunions de cellules, il y a les cellules politiques, il y a les réunions des comités. Presque chaque semaine, vous avez la réunion de cellules politiques, vous avez la réunion de comités où vous êtes membre.
Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples très concrets de questions qui se discutent ? Parce que là, tu fais une liste impressionnante de tâches, ça paraît un petit peu rébarbatif. Il serait bien qu'on se rende compte de quel genre de questions se posent les femmes lorsqu'elles se retrouvent aujourd'hui dans ces réunions, quelles qu'elles soient.
Vous voyez, c'est des réunions. Vous savez, à chaque fois, il y a des réunions différentes. Alors, il y a des réunions qui font l'organisation des femmes directement. Par exemple, à propos de problèmes de l'avenir, par exemple.
Pourquoi très concrètement ?
Comment la femme peut garder son travail ? Quelles sont les possibilités pour qu'elle garde son travail ? C'est enfin orienter ces femmes à travailler, hein, à garder ce travail, à avoir plus de formation, et avoir aussi de la patience pour arriver. Parce que vous voyez, il y a des femmes qui pensent que, pour elles, le travail doit terminer avec l'indépendance. Il y a des femmes qui pensent ça. Pourquoi elles sont fatiguées ? C'est des femmes qui sont fatiguées. 17 ans de vivre dans un camp avec un travail de chaque jour, avec des enfants, avec des grossesses, et dans des conditions qui ne sont pas faciles, avec une chaleur insupportable pendant l'été, avec du froid insupportable pendant l'hiver, avec de manque de matériel, manque de loisirs, ces femmes pensent avoir inconfortable avec l'indépendance, avoir un foyer, avoir une unité de famille, avoir la présence de son mari, peuvent se reposer. Alors c'est le rêve de beaucoup de femmes. Nous, comme organisation, nous sommes en train de leur expliquer que c'est pas toi comme femme qui dois choisir, de rester chez toi, mais il y aura d'autres éléments qui vont t'obliger de rentrer chez toi. Alors il faut penser bien qu'il faut rester là, parce que la dignité de la femme sahraoui, la liberté de la femme sahraoui, c'est de continuer, de rester, de résister malgré ces souffrances qu'elle vit maintenant.
Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'effectivement, les femmes jeunes d'aujourd'hui prendront, relèveront le défi des femmes qui ont déjà beaucoup travaillé?
C'est un dialogue de génération qu'on est en train d'imposer, par exemple. C'est vrai, il faut donner aussi le message à ces générations, mais ce n'est pas tout à fait évident que cette génération aussi lâche la responsabilité. Parce qu'on sent qu'il y a une complétation une aide entre ces deux générations. Cette première génération, bien entre trois générations, si vous voulez, la grande génération qui a la vie sahraoui traditionnelle, qui a les principes de la situation bédouine, qui a tous ses pensées propres envers la femme. Vous avez la deuxième génération qui a commencé avec la lutte et qui a pris vraiment le lourd fardeau sur les épaules malgré tout. Et vous avez la troisième génération des jeunes qui vont de sortir d'université et tout et qui doivent continuer. Alors il faut avec ce triangle de génération que l'expérience de la femme sahraoui doit continuer. Alors nous sommes en train d'expliquer ça et l'été dernier il y avait un séminaire à propos de ça où nous avons invité toutes ces générations à discuter du rôle de la femme sahraoui, qu'est-ce que la femme sahraoui a pu faire durant ces 20 ans de lutte, d'existence, de résistance, est-ce que c'est nécessaire qu'on continuera demain ou on s'arrête avec l'indépendance, qu'est-ce que ça veut dire la présence de la femme sahraoui demain avec l'État sahraoui libre. Et bien sûr, il y avait beaucoup d'idées, d'échanges d'idées, et on a pu comprendre que beaucoup parmi ces femmes, beaucoup parmi ces générations pensent que la femme sahraoui doit continuer. Et même il y a des femmes très vieilles qui disent on ne peut pas imaginer l'existence des femmes sahraouis sans travail. Alors, le travail devient une partie de leur espoir, de leur vie, de leur identité féminine même.
Mais pourquoi c'est le travail en particulier? Est-ce que parce que c'est à cet endroit-là que la femme sahraoui peut montrer qu'elle est responsable, partager des décisions, etc. Parce que il y a certaines femmes, même aujourd'hui, qui revendiquent pas forcément de travailler à l'extérieur de chez elles.
Bien sûr. Il y a d'autres, mais on trouve, vous voyez, on trouve que c'est nécessaire. C'est à travers ce travail que la femme peut être là ou bien elle existe. Autrement, elle ne peut pas exister.
Dans la famille, elle ne retrouvera pas cette importance et cette indépendance.
Elle est là dans sa famille. Mais et une chose qu'on peut expliquer, ou bien on essaie toujours d'expliquer pour les femmes, que tu peux être responsable chez toi et tu peux avoir ton rôle très essentiel chez toi, mais un rôle qui se complète avec ton rôle dehors de ton foyer. Alors il ne faut pas toujours diviser le rôle, et pour nous c'est pas tout à fait suffisant de rester chez elle. Et surtout pour nous comme organisation de femmes sahraouis, nous trouvons que le rôle ailleurs complète le rôle de la femme sahraoui, et surtout que ce rôle, c'est le rôle avec une autre génération qui va être éduquée avec nos enfants, la génération qui doit prendre la charge demain. Alors, ce sont des rôles qui se complètent. Alors, il ne faut pas isoler un rôle de l'autre.
nous retrouvons dans quelques instants Khadija Hamdi, femme sahraoui, qui évoque la situation de la femme sahraoui dans les camps de réfugiés aujourd'hui, à la veille et surtout avec le grand espoir de pouvoir retourner très prochainement en République sahraoui arabe démocratique.
De la génération qui sont encore plus jeunes qu'une des amies qui est avec nous maintenant, qui, vos enfants par exemple, qui doivent avoir, qui sont